Maurice Lacoste. Soyez toutes et tous les bienvenus. Avec vous, Martine Béguin, on va vivre une étonnante expérience, celle à laquelle Joris Lacoste, comédien, auteur et metteur en scène, invite les spectateurs du festival Phare, un festival qui bat son plein à Nyon ces jours-ci.
Une drôle d'aventure et drôlement séduisante, Joris Lacoste propose chaque jour à un spectateur et un seul de se faire hypnotiser par ses soins. On fixe un petit point noir sur le mur, confortablement installé dans un fauteuil relax, on se détend, on ferme les yeux et l'artiste vous entraîne dans une maison vide pour y vivre d'étonnantes aventures que vous aurez ensuite à raconter si vous vous prêtez au jeu à un petit public à l'issue de la séance.
Donc Joris Lacoste est un artiste hypnotiseur.
Voilà. Il a appris l'hypnose, tout ça parce qu'avec un groupe d'amis et collègues, il s'est passionné pour les formes de la parole les plus diverses. Il a même constitué une encyclopédie de la parole en collectant toutes les formes les plus variées du discours, plaidoirie, discours publicitaire, message de répondeur, prêche et séance d'hypnose, d'où son intérêt pour la question, parce que c'est une forme très particulière du partage entre un auteur, lui, et un spectateur aussi.
Donc ça se passe au Festival Phare de Nyon, où exactement ?
Dans une petite maison tout à fait au calme, c'est la Léproserie, une petite maison à côté du musée du Léman, une maison inoccupée, entourée d'un parc, c'est très tranquille, dans laquelle Joris Lacoste a installé la fameuse chaise longue sur laquelle s'installer, une petite table et des sièges pour tailler le petit bout de gras avant, faire connaissance avant la séance, et on se retrouve pour l'interview sur les marches du perron.
L'expérience que je propose est une expérience d'hypnose. Ce que je propose, c'est de faire vivre un rêve à une personne sous hypnose. Donc j'ai préparé spécialement pour le Phare un scénario qui s'appelle La Maison Vide, que je vais raconter à cette personne. Mais préalablement, je dois d'abord l'accompagner dans un état hypnotique. Et pour ce faire, j'utilise une technique qui est une technique très classique, très ancienne, et qui est même une technique un petit peu démodée, qui est la technique dite de la fixation. Et c'est une technique qui consiste à demander à la personne de fixer un point. Ça peut être un point, ça peut être une bougie, ça peut être autrefois, ça pouvait être le regard de l'hypnotiseur. Le principe est le même, c'est simplement de se concentrer sur une seule chose, et en se concentrant comme ça de plus en plus sur un seul point, on entre progressivement dans une forme d'état second.
C'est une pratique que vous menez depuis longtemps, l'hypnose, bientôt 8 ans, c'est ça ?
Oui, j'ai commencé en 2004. J'ai commencé d'abord à la façon d'un amateur, par simple curiosité, avec quelques amis. Et j'ai entrevu assez vite la possibilité ou le potentiel de cette discipline en ce qui concerne la narration, le récit et la manière dont raconter une histoire sous hypnose permet de la vivre autrement, puisqu'on est littéralement plongé dans des situations et on projette des images d'une manière beaucoup plus vivace et beaucoup plus nette qu'en état vigilant, en état de veille. Et donc on peut produire grâce à l'hypnose des formes de rêves que j'appelle des rêves préparés, qui sont préparés puisque j'écris à l'avance des scénarios et que ces scénarios ensuite je les raconte à des spectateurs. Et donc j'essaie de produire des rêves et j'essaie de faire en sorte que ces rêves soient des œuvres artistiques.
Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois le récit sera le même ou est-ce que vous l'adaptez d'une personne à l'autre ?
En l'occurrence, ici à Nyon, pour la première fois, j'ai écrit un récit que je vais raconter à peu près de la même façon, autant que possible en tout cas, à différents spectateurs. En général, j'écris un récit que je raconte une seule fois, et puis pour la personne suivante, j'écris un nouveau récit. Et là, j'ai choisi de prendre la proposition qui m'était faite par le Phare comme vraiment une proposition de spectacle, de performance, de spectacle de théâtre, et donc d'écrire un texte, de le répéter tous les soirs comme on fait au théâtre, à des spectateurs, sauf que là, évidemment, je n'ai qu'un seul spectateur. Mais donc, oui, ce que je vais dire à la personne sera sensiblement identique. En revanche, ce que vont vivre les différentes personnes sera évidemment très, très différent d'une personne à l'autre, puisque entre ce que je raconte et ce que vit la personne hypnotisée, il y a une marge d'interprétation qui est souvent spectaculaire. Et donc, je m'attends à ce que les... les restitutions, les récits d'expérience des différents spectateurs soient très différents d'un soir à l'autre.
Ça vous est déjà arrivé de constater ces écarts en racontant une histoire à deux personnes différentes, de voir que chacun se projette ou attrape des bribes de votre récit différemment ?
Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai expérimenté au tout début quand j'ai commencé, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un écart très, très impressionnant entre ce que je disais et ce qui était vécu. Et c'est ce qui me fascinait beaucoup, de voir comment finalement ce dispositif permettait de révéler quelque chose de l'imaginaire et de l'imagination d'un spectateur, puisqu'il y a le spectateur littéralement hallucine et interprète à sa façon ce que je lui dis. Et donc, de fait, c'était très tentant de procéder de manière comparative et de voir comment la même histoire a raconté à différentes personnes. Mais je l'ai jamais fait un projet. C'est la première fois ici que je vais le faire de manière plus, disons, plus systématique. Et on pourra, pas seulement moi, mais les gens qui assisteront à ces restitutions après la séance, pourront constater les différentes manières dont l'histoire va s'incarner.
Alors vous avez un protocole qui est assez précis. On a raconté comment ça va se passer pour le spectateur qui vient vous rejoindre ici à la léproserie. Vous tenez à ce qu'on n'enregistre pas la séance d'hypnose, vous tenez à ce qu'on n'enregistre pas non plus la restitution. Comment les gens vont-ils assister à cette restitution ensuite, au jour le jour?
Oh, la restitution va se faire dans la cour de l'usine à gaz ici à Nyon. Donc on va faire la séance à 18h. Simplement donc en tête à tête, en secret. Je tiens effectivement à ce que la séance soit un moment très privilégié et que l'histoire que je raconte ne soit perçue, ne soit entendue que par la personne hypnotisée. Et ensuite, on ira ensemble à l'usine à gaz, qui est le centre du festival, où là, je proposerai à la personne de me raconter ce qu'elle a vécu et cette. Ce récit se fera en public avec les gens qui sont là à ce moment, qui pourront, si ça les intéresse, écouter ce qui s'est passé dans la petite maison.
Et donc là, oui, je suis devenu une araignée. Une petite araignée. Je me sentais bien dans ce corps-là. C'était, oui, c'est ça, bien proportionné, je sais pas. Oui, c'est très léger, c'est pas du tout un corps encombrant. C'est beaucoup moins encombrant qu'un corps humain. Parce qu'en fait, tout est centralisé au niveau de la tête, en fait. C'est comme si on avait une tête-corps, enfin, que la tête était le corps. Et donc après, on a... Par exemple, le buste de l'araignée, on le sent pas. C'est comme si c'était les pattes, déjà. Et du coup, oui, c'est un corps très agile, très habile. Rapidement, en fait, j'ai tissé la toile. Entre le tronc et la branche, voilà, je faisais... ça faisait un polygone, en fait. Et je l'ai fait très rapidement. Et si rapidement qu'en fait, je ne m'étais pas bien appliqué et que le vent l'a rapidement emporté. Voilà, et je me suis dit, tu l'as pas assez bien fait, en fait. C'est parce que je l'avais fait rapidement, c'était pas assez dense. J'avais pas fait assez de points de rencontre entre les fils. Je me suis dit, bon, mais je vais en refaire une mieux parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, en fait, j'avais pas trop fait gaffe qu'il y avait du vent. Donc, je la refais mieux, tout ça. Et en fait, quand je sortais la toile de mes pattes, ça faisait le même bruit que quand on presse sur les tubes de crème chantilly. Ça faisait ce bruit-là, exactement. Et voilà. Et donc, en fait, donc je fais cette toile très bien. Elle me plaît. Elle est assez graphique. Elle est assez jolie. Tout ça, je suis assez fier. Alors, ça pourrait ressembler un peu à de la dentelle, sauf que c'était plus épais, plus dense. En plus, c'est un blanc... très blanc, quoi. C'est très beau, hein. On dirait du nuage, en fait. Ça me colle pas du tout aux pattes. C'est comme si je marchais sur du coton. Enfin, ça change rien pour moi. Mais en effet, oui, c'est très sensible. Dès que quelqu'un tombe dedans, je le sens. Dès qu'il y a du vent, je le sens. Mais cette toile-là a été faite pour résister au vent. C'est marrant parce que la toile, c'est un peu comme une maison, mais aussi une œuvre d'art. Un élément complètement esthétique, très beau, mais complètement fait par moi-même, mais en plus très rapidement. C'est-à-dire que ça demande aucun effort particulier, enfin, si, de réflexion, mais l'araignée, enfin, j'ai l'impression de réfléchir très vite, très très vite. Ouais, j'ai l'impression que l'araignée était très intelligente, en fait. Voilà.
sur un site internet dans lequel sont postées plusieurs vidéos liées à votre travail. J'ai découvert des vidéos avec des gens qui racontent des histoires. Suite à une hypnose que vous avez sans doute proposée, on les voit à l'image avec ce moment où les yeux commencent à cligner et puis où on les voit partir dans le sommeil. Et là commence le récit de leur restitution, avec des histoires en général d'incarnation en un animal, et puis un départ en forêt, et puis une histoire d'un arbre. Alors là, est-ce que l'histoire était à chaque fois différente ou est-ce que chacun d'eux s'est projeté dans un animal différent? Parce qu'il y a un éléphant, il y a une araignée, il y a des animaux de toutes sortes.
Non, l'idée pour ce projet, qui était un projet que j'ai réalisé en 2010 au printemps de septembre à Toulouse, c'était de réaliser une sorte de bestiaire, une sorte de galerie comme ça, de portrait, où chaque spectateur ou spectatrice prendrait la forme, se transformerait ou se métamorphoserait en un animal. Et donc le principe était donc le même, le principe de transformation, mais l'animal était différent chaque jour. Donc chaque jour, je proposais une métamorphose différente.
Mais si je prends par exemple le monsieur qui se transforme en araignée, j'ai adoré son récit d'ailleurs, qui raconte que quand on devient une araignée, on est petit, on est très léger, on est tout dans une tête, et puis on est très intelligent, on n'a plus de corps, on n'a plus de tronc, on a vraiment les pattes qui sont autour de la tête. Ça, c'est des choses qui viennent de vous ou qui viennent de lui ?
C'est un mélange. Disons que moi, ce que j'ai, autant que je m'en souvienne, ce que j'ai raconté, c'était des choses assez scientifiques, des choses de l'ordre de l'anatomie de l'araignée, des choses de l'ordre de son comportement, de sa sociabilité, sa manière de se reproduire ou de s'alimenter. Et ce qui était étonnant dans ce cas précis, c'est que cette personne avait vraiment l'impression d'avoir éprouvé quelque chose de l'ordre de l'expérience réelle de l'araignée. C'est-à-dire qu'elle explique que vraiment, en fait, l'araignée, c'est un animal très rapide. En fait, l'araignée, c'est un animal très intelligent. Et quand je lui posais la question, elle avait vraiment l'impression que c'était la manière qu'elle avait ressenti, la manière réelle dont l'araignée voyait le monde, dont l'araignée se comportait. Donc ça, c'était tout à fait fascinant, en effet, de voir qu'on pouvait donner l'illusion, enfin, peut-être que ce n'est pas une illusion, mais vous pouvez en tout cas créer la certitude de vivre, d'avoir vécu un moment, un jour, dans le corps d'un animal aussi différent qu'un insecte ou qu'une araignée.
Vous-même, Joris Lacoste, vous avez sans doute été hypnotisé avant d'être capable d'hypnotiser. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces instants où on glisse vers cet état de conscience assez différent ?
On perd une forme d'esprit critique. Et c'est une chose qui... C'est assez dur d'y renoncer. Enfin, on le perd sur le moment, on le retrouve évidemment a posteriori. C'est assez dur d'y renoncer, mais c'est quelque chose que, pour mon compte, je trouve très, très précieux et très agréable d'avoir des moments comme ça où on se laisse complètement absorber par une fiction et on vit cette fiction de l'intérieur. Après, c'est quelque chose de l'ordre de la une forme d'enfance. C'est une manière comme ça qu'on peut avoir enfant quand on nous raconte des histoires à entrer complètement dans des situations, dans des personnages, dans des formes d'aventure. C'est un goût aussi pour le rêve. Moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Je m'intéresse beaucoup non seulement à mes propres rêves, mais aux rêves des autres. Et donc la tentation de pouvoir modeler ses rêves, ou de pouvoir scénariser presque des rêves, de pouvoir produire comme ça des formes de récits rêvés, de rêves préparés, c'est une tentation qui a toujours pour moi été très grande.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on hypnotise quelqu'un, quand on lui propose un récit? Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas définitivement? Les gens ne vous suivent pas?
C'est difficile à dire. Il y a toujours des choses qui ne marchent pas, mais c'est jamais les mêmes. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des choses qui ne marchent pas, simplement la plupart du temps, parce que ça n'intéresse pas. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez soit simplement laisser la proposition, soit la transformer en autre chose qui vous intéresse. Il y a vraiment une latitude comme ça d'adaptation, d'interprétation qui est très grande. Donc on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut de l'histoire qui nous est racontée. Pour les choses qui ne marchent pas, je propose toujours des choses qui sont relativement, d'une part agréables et d'autre part simples. Simples au sens de... Ce sont des choses qui n'ont... Il n'y a pas vraiment de raison de les refuser ou de... C'est jamais des choses qui iraient contre les convictions intimes des personnes, etc. J'essaie vraiment d'être très dans un rapport de confiance et de surprise en même temps, de pouvoir créer des conditions de, à la fois de proposer des situations surprenantes et en même temps qu'elles soient reçues avec une forme d'évidence et de qui permettent comme ça une imagination un peu ouverte et libérée.
Et on m'annonce que c'est moi qui fais une expo dans ce musée. Que je suis en train de faire une expo. Je suis même en train de visiter une exposition. L'exposition est en cours, c'est moi qui l'ai faite. Et en même temps, je la découvre. Et il y a cette première salle, mais que je vois beaucoup en contre-plongée. Et c'est la salle où les murs sont faits avec des corps.
C'est une pièce où les gens sont dans les murs. Et donc, une pièce complète avec 4 murs, pas de plafond, mais il y a des parois transparentes.
Et derrière ces murs de verre, il y a des gens qui sont nus et ils attendent. Ils sont vraiment comme des poissons. Ils sont vraiment comme des poissons dans un aquarium. C'est-à-dire qu'ils sont derrière la vitre, quoi. Quand même un sentiment un peu oppressant parce que ces gens en vitrine comme ça. C'est moi qui ai eu cette idée et même qui l'ai réalisée. J'ai voulu la faire mais je comprends pas.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, Joris Lacoste, que vous fassiez très très peur à quelqu'un, que vous le placez dans une situation de monstre suspense? Parce que quand vous parliez de l'identification des enfants, moi j'ai un souvenir de mon fils terrorisé par le moment où Spider-Man est aux prises avec son ennemi fatal et qu'il est sur le point de succomber. J'ai dû arrêter la vidéo ce jour-là. Et mon fils n'a jamais voulu voir la fin parce que c'était le moment où le héros était en train de perdre pied. Mais là, il avait une trouille monstre. Est-ce que vous pourriez faire peur aux gens que vous hypnotisez?
Oh, je pense qu'on pourrait très facilement faire peur. C'est quelque chose que je me refuse à faire. On peut jouer avec des formes d'inquiétude. Mais il faut être quand même très... Il faut être très délicat quand même, puisqu'on est dans des, comme je disais, des formes de lâcher prise, de confiance, de laisser aller, qui confèrent à celui qui raconte une forme de responsabilité. Je pense qu'il faut prendre au sérieux, puisqu'on n'est pas dans un, comme l'esprit critique est d'une certaine manière suspendu, on a aussi moins de résistance, moins de barrières, moins de manières de se protéger de la fiction, et donc il faut pouvoir proposer des expériences qui sont à la fois intenses et en même temps sans danger.
Comment est-ce que vous reliez cette expérience, cette pratique-là, à l'ensemble de vos pratiques, puisque vous êtes un homme polyvalent, auteur d'autres formes d'écriture également, d'autres formes de performance, d'autres rapports à la parole et à toutes les paroles?
Je dirais presque que cette forme-là, c'est un peu une forme qui réunit des intérêts très divers que j'ai pu explorer sous différents formats, dans différentes activités. D'abord, c'est évidemment un intérêt pour l'écriture, pour certaines formes d'écriture, mais c'est aussi un intérêt pour l'improvisation, puisqu'il y a une marge d'improvisation dans la manière et de... d'accompagner la personne en hypnose et de raconter l'histoire qui est plus ou moins importante. Il y a une forme évidemment aussi, enfin il y a un intérêt pour la forme théâtrale, puisque c'est de fait une forme de théâtre, même si je suis seul face à un spectateur ou une spectatrice unique. La relation qui existe entre nous est une relation de théâtre, en tout cas moi c'est comme ça que je la conçois. Et c'est la question de la relation au théâtre, la relation entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans le public. C'est une chose qui m'intéresse depuis longtemps et j'ai, par d'autres projets, exploré des formes de relations particulières, ou travailler en tout cas cette question de la relation de manière, de différentes manières. Et donc, évidemment, l'état hypnotique est une relation particulièrement intéressante, puisque c'est une relation très paradoxale, puisqu'on est à la fois, on vit à la fois complètement quelque chose, en même temps on n'est pas conscient complètement, ou complètement conscient des moyens qui sont des moyens qui permettent de créer ces différents états ou ces différentes fictions. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais il ne s'agit pas de dire que c'est pas une forme de relation théâtrale absolue ou spéciale. Enfin si, c'est forcément spécial, mais c'est plutôt quelque chose de... Ce qui m'intéresse, c'est la dimension paradoxale de cette relation. C'est qu'il y a quelque chose où on ne peut profiter de la pièce, du spectacle, que dans la mesure où on y renonce, de cette manière. C'est-à-dire qu'on renonce à la compréhension ou à la perception des moyens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une conscience entière ou complète du texte, de la manière dont je le prononce, de ce qui se passe, qui est normalement ce qu'on peut apprécier ou voir admirer sur scène. Et en même temps, ces outils que j'utilise produisent des effets parfois très intenses chez le spectateur. Donc il y a un paradoxe, c'est comme si plus l'effet était profond, était grand, plus la conscience des moyens utilisés était faible. Ça, c'est très intéressant.
Dans l'ensemble de votre démarche, je pense ici à l'aventure de l'encyclopédie de la parole. Vous avez toujours une grande curiosité pour les différentes formes de parole, mais pas seulement les mots en eux-mêmes ou la façon de les proférer, mais aussi le médium par lequel elles passent, que ce soit un répondeur téléphonique, un microphone pour un conférencier, une scène de théâtre justement avec des gens sur une scène et des gens dans une salle qui les regardent. À chaque fois, le dispositif d'interaction avec le spectateur est très divers et puis provoque aussi un mode de réception qui est complètement différent chez le spectateur. On n'écoute pas un répondeur comme on écoute son médecin vous annoncer que vous avez un cancer. Quand bien même sur le répondeur il vous l'aurait annoncé, c'est pas pareil. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et donc ça voudrait dire que dans le théâtre que vous écririez, vous pourriez parfois repenser à ce que vous pratiquez en pratiquant l'hypnose et vous en servir pour des spectacles en sachant que du coup vous ouvrez plus la porte à l'imaginaire de vos spectateurs.
C'est ce que j'ai essayé de faire dans le spectacle qui s'appelle Le Vrai Spectacle, que j'ai fait cette année, mais qui fonctionne vraiment sur le même principe, puisque le projet consistait à proposer à une salle entière de vivre une expérience, de rêver un spectacle, donc d'entrer en état d'hypnose et de projeter mentalement un spectacle qui n'était pas produit sur scène, mais qui était que l'on pouvait rêver, qu'on pouvait imaginer. Donc là, de fait, ce sont les procédés très, très, très similaires que nous avons utilisés. Après, pour d'autres spectacles, nous verrons.
Mais ça a fonctionné ? La salle vous suivait ?
Ça a fonctionné. Il y avait deux manières vraiment de voir le spectacle. Et c'est ça qui était... Il y avait souvent des gens qui venaient le voir plusieurs fois. Parce qu'on pouvait complètement le voir en restant complètement éveillé. Et donc on le voit en voyant le spectacle de manière tout à fait classique. Mais on pouvait aussi vivre l'expérience du rêve, l'expérience de l'hypnose. Et comme je disais tout à l'heure, on est un peu obligé de faire un choix comme spectateur. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé, soit on veut... Et il y a des gens qui tenaient absolument à voir le spectacle, ce qu'on appelle le spectacle réel, c'est-à-dire ce qui se passait réellement sur scène, c'est-à-dire à écouter la musique, à apprécier le travail visuel, à écouter le texte, à entendre le travail de l'acteur. Et donc qui restaient à l'extérieur de l'expérience pour pouvoir en apprécier les moyens déployés, et d'autres qui s'abandonnaient à l'expérience et donc vivaient un rêve, mais par contre certains ne se rappelaient plus du tout de ce qui avait pu être fait sur scène ou de ce qui avait pu être dit par les spectateurs. Donc c'était vraiment des formes d'expérience très diverses. En discutant avec les gens ou en lisant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit après le spectacle, on s'est rendu compte à quel point le spectacle avait été vécu de manière très 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 différente et très singulière par chaque spectateur.
l'artiste, auteur et hypnotiseur Joris Lacoste à votre micro, Martine Béguin. J'imagine pas facile de vivre l'expérience tout de même s'il n'hypnotise qu'un spectateur par jour.
Ça, c'est un peu la limite de l'exercice, je trouve, parce que c'est pas facile de décrocher un billet. La consigne, c'est qu'on doit se rendre au festival la veille, un peu avant 18h, pour tenter sa chance, tenter de décrocher la timbale, c'est plutôt contraignant. Par contre, tous les jours, vous pouvez aller écouter le récit de l'hypnotisé du jour. Et un de mes amis, par exemple, à Bonnet-du-Phare, y va à chaque fois. Et c'est, paraît-il, génial de voir combien chacun des spectateurs se crée sa propre histoire sous hypnose.
Merci beaucoup Martine Béguin. La Maison Vide, donc, c'est l'expérience d'hypnose individuelle que vous propose Joris Lacoste au Festival Phare de Nyon chaque jour jusqu'au 18 août. Martine, on se retrouve demain pour une nouvelle rencontre. Vous nous emmenez à Cassel, à la Documenta.
Ah, je peux pas résister. Il faut que je vous fasse découvrir le travail de deux artistes. Celui de Alighiero e Boetti, grand artiste italien que nous raconte sa femme, Anne-Marie Sozzo, sa veuve. Et puis Thomas Bayerle, un Allemand complètement givré qui fait des moteurs de voiture des cathédrales.
Donc double rencontre à entendre demain à partir de midi sur Espace 2, tout de suite sur notre antenne, et bien c'est Première Loge avec Antonin Scherrer.
Espace 2.
Tous les jours, entre 12h35 et 13h sur Espace 2, vous êtes conviés aux Premières Loges, les Premières Loges de votre soirée concert de l'été des festivals. Vous mettre l'eau à la bouche, vous présenter un artiste, un ensemble, une œuvre, un compositeur. Antonin Scherrer au micro, et en ce lundi 13 août, je vous propose, avec en ligne de mire une soirée au festival Musique en été de Genève, un portrait du harpiste français Xavier Demestre, qui a rendez-vous dans la cour de l'hôtel de ville avec le quatuor zurichois Carmina, dans des pages très bigarrées de Beethoven. Quatuor des harpes, Handel, transcription pour harpe seule d'un concerto, Mozart, Adagio et Rondo pour harpe et quatuor, et André Caplet, Le masque et la mort rouge, un conte fantastique pour harpe et quatuor à cordes qui vaut le détour. Avec la harpe, si l'on sort des grands tubes qui se comptent sur les doigts de la main, on est presque forcément dans l'originalité. L'originalité, c'est ce qui caractérise aussi la situation de ce jeune Français. À la plastique raffinée, star planétaire de la harpe, dans un monde jusqu'ici presque exclusivement féminin. Une image dépassée, comme nous le verrons tout à l'heure avec l'évocation d'une autre figure française qui monte, celle des